L'extase du papillon. Une émission présentée par Christophe Jubien. L'extase du haïku, votre émission consacrée au haïku, au grand maître japonais de ce petit poème de trois vers créé par Basho il y a fort longtemps, c'était au XVIIe siècle, et puis depuis le haïku a pris son envol, il est pratiqué et lu dans le monde entier à l'heure d'aujourd'hui. Je vous présente, aujourd'hui c'est le deuxième volet de l'émission qui lui est consacré, Masaoka Shiki, un poète réformateur du haïku, c'est d'ailleurs à lui que nous connaissons ce petit poème sous sa dénomination moderne, haïku. Avant on disait haïkai. Je m'appuierai, comme lors des émissions précédentes, sur les éditions Mundaren, auteur d'un livre formidable, Shiki, le mangeur de kaki, qui aime les haïkus. Les textes que je vous lis aujourd'hui sont extraits de ce très beau livre relié à la chinoise. Nous avons quitté notre ami Shiki au mois de février 1896, au moment où il apprend qu'il souffre, non pas de rhumatisme comme il le pensait, mais d'une tuberculose spinale qui va le clouer au lit à plus ou moins brève échéance. Toutefois, au mois d'avril, il parvient avec grande difficulté à se mettre debout et appuyé sur une canne, il se rend dans le petit jardin où le printemps naissant lui procure une joie intense. Sérénité. Appuyé sur une canne, je m'attarde dans le jardin. Sérénité. Appuyé sur une canne, je m'attarde dans le jardin. De janvier à mars 1897, Shiki publie dans Nippon, une revue dont il est un collaborateur très régulier depuis de nombreuses années. Shiki publie dans Nippon une chronique intitulée « Le monde du haïku » en 1896, où il loue la poésie de ses disciples Kyoshi et Ekigoto, tous deux originaires comme lui de Matsuyama. Ils lui rendent fréquemment visite et prennent soin de lui. D'avril à novembre de la même année, Shiki publie toujours dans Nippon une série d'articles où il fait l'éloge du poète Busson, le maître de haïku Busson, dont il vient de redécouvrir avec enthousiasme la poésie, Busson que je vous ai présenté il y a quelques semaines, rappelez-vous. Grâce à Shiki, Busson, jusqu'alors renommé comme peintre, va l'être désormais en tant que poète. En mai 1896, Shiki commence dans sa rubrique de Nippon une série de chroniques intitulée « Questions et réponses sur le haïku » où il dialogue avec ses lecteurs. Toujours en 1897, l'ami de Shiki et son disciple Kyokudo, né la même année que lui et de Matsuyama lui aussi, fondent sous la direction de Shiki la revue de haïku Ototo Gisu, le Kuku, qui se veut le reflet du courant poétique dont Shiki est l'initiateur. Ototo Gisu, édité à Matsuyama et illustré par son ami le peintre Nakamura Fusetsu, devient bientôt la revue phare du haïku moderne, du haïku réformateur par rapport aux règles du passé. À partir de cette année-là, Shiki, âgé maintenant de 30 ans, doit garder le lit la majeure partie du temps. Les complications de la tuberculose spinale dont il est atteint lui causent de fortes douleurs. On doit lui prodiguer des soins constants et bien que très diminué physiquement, et se sachant condamné à plus ou moins court terme, il garde une force d'esprit et de caractère hors du commun. Il continue à se consacrer à ses activités littéraires, tant de création que de critique, et organise chez lui de fréquentes rencontres poétiques. En juillet, sa santé s'améliore un peu. En août, ayant reçu un cadeau de pinceaux et de carnets de notes de Formose, il commence un journal où il note chaque jour sa condition physique, le traitement qu'il prend et la nourriture qu'il mange. Il a d'ailleurs toujours très bon appétit. À 4 heures, les corbeaux. À 5 heures, les moineaux. De la nuit d'été, le jour point. À 4 heures, les corbeaux. À 5 heures, les moineaux. De la nuit d'été, le jour point. À côté de son lit se trouve une grande boîte dans laquelle il range tous les haïkus que lui envoient les lecteurs de Nippon et de Ototogizu et qu'il a à cœur de lire et d'apprécier. 3000 haïkus à examiner. 2 kakis. 3000 haïkus à examiner. 2 kakis. Il faut dire que Shiki est particulièrement friand de kaki, du genre de ceux peints au XIIIe siècle en Chine par le peintre et moine zen Mu Qi, qui sont reproduits en frontispice. En octobre d'ailleurs, Shiki reçoit un colis de kaki offert par le moine zen et poète Guan Amada, de 13 ans son aîné, accompagné de 6 tanka. Le tanka, c'est le poème de 5 lignes de l'antique tradition poétique japonaise, dont le livre source est le Manyo Shu, célèbre anthologie poétique compilée au 8e siècle. Shiki lui répond avec ce tanka. Certains kakis sont sucrés, certains kakis sont âpres. Les âpres sont les meilleurs. Cet échange va éveiller en Shiki l'envie de composer des tanka et de s'intéresser, comme il l'a fait pour le haïku, à l'état des lieux du tanka. Du 12 février au 3 mars 1898, il fait paraître dans Nippon une série de chroniques intitulées « Lettres à un poète de tanka » dans lesquelles il essaie de revitaliser ce genre, tombé dans le divertissement littéraire, d'où toute authentique poésie est quasi absente. À propos du vocabulaire du tanka, d'ailleurs, Shiki note « Tout mot à même d'exprimer la réalité est approprié au tanka, il n'y a pas d'autre critère ». Qu'il soit chinois ou occidental, tout mot utilisable littéralement doit être considéré comme appartenant au vocabulaire du tanka. Nous ne pouvons nous appuyer exclusivement sur les choses d'origine japonaise. Si nous devions nous passer des mots empruntés au chinois, tels que cheval, fleur de prunier, papillon, chrysanthème, écriture et bien d'autres, que resterait-il ? Il n'y aurait jamais eu de Japon si les Japonais s'étaient limités aux mots japonais indigènes et... prédit Shiki, la littérature japonaise s'effondrera si les écrivains japonais se mettent aujourd'hui à agir de la sorte. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. Au mois de mars est publiée la première anthologie de haïku des disciples de Shiki, intitulée « Nouveau haïku ». Tout au long de l'année 1898, la maladie laisse un peu de répit à Shiki. Il parvient à s'asseoir. À la fin du mois de mars, il entreprend une promenade en pousse-pousse dans la campagne avoisinante. Au retour, il compose ce tanka. De retour, après avoir contemplé la campagne, au profond de la nuit sur l'oreiller, les champs de colza en fleurs devant mes yeux. Très attaché au jardin qui jouxte sa maison, au printemps 1898, Shiki compose ce récit du petit jardin. J'ai un petit jardin d'environ un art au sud de la maison. Par-delà la haie, on aperçoit les cèdres d'Ueno. Ici, à la lisière de la ville, les maisons sont éloignées les unes des autres. Aussi, rien ne vient obstruer ma vue du ciel bleu, ce qui me permet d'accompagner bien au-delà du jardin le défilé des nuages et le vol des oiseaux. Depuis que la maladie a empiré au point que je ne puis plus me lever pour sortir, le petit jardin est devenu mon univers. Ces plantes et ces fleurs sont dorénavant l'unique matière de mes poèmes. La seule chose qui me donne à penser qu'une telle vie est un tant soit peu meilleure que de se morfondre derrière les barreaux d'une prison est l'existence de ce petit jardin avec ses myriades de fleurs. Un jour où la chaleur printanière commence à s'accentuer et que l'on entend les chants des oiseaux de façon claire, j'ouvre la fenêtre de ma chambre de malade et, me traînant jusqu'à la terrasse, laisse mes yeux, las de lire, musardés. Les plantes vivaces bouillonnent de vie. Le passage de la brise encore fraîche par les ouvertures de mon kimono est délicieux. Les vigoureux lespèdes qui m'ont été offerts par la vieille dame d'à côté sortent leurs bourgeons verts. J'imagine déjà leur couleur en automne. Je passe ainsi la journée de midi jusqu'à ce que le crépuscule tombe sur le châtaignier. En transe, je ne fixe mon regard sur rien de précis, comme ivre, comme si toute ma force m'avait quitté. Mais bientôt, je me sens comme un enfant animé d'une vie nouvelle, revigoré comme les lespèdes en bourgeon. C'est à ce moment précis qu'un papillon jaune arrive en voltigeant. Comme je le regarde batifoler dans la haie en fleurs, mon âme instinctivement se met à l'accompagner. Ensemble, nous visitons les fleurs, inspectons les parfums, nous posons sur les bourgeons. Alors que je pense reposer mes ailes un instant, le voilà qui passe au-dessus de la haie basse de cyprès, fait le tour du jardin voisin et revient virevolter au sommet du pin et au-dessus du bassin. Puis, emporté par une rafale, il s'élève et disparaît, caché par l'avant-toit. Je suis en dehors de moi, au comble de l'extase. Revenant à mes sens, je me rends compte que j'ai de la fièvre et me sens mal à l'aise. Je retourne à l'intérieur, ferme le shoji et tire la couverture sur moi. Pourtant, en réalité, je suis en train de danser follement avec le papillon. Nous volons maintenant au-dessus d'une vaste plaine, sans limite. À la fin de l'année 1898, le disciple de Shiki, Kyoshi, lui offre des portes vitrées coulissantes pour remplacer une partie du shoji en papier. Shiki, qui peut désormais voir le jardin de son lit, en est bouleversé de joie. Tout au long de l'année 1899, sa santé s'améliorant quelque peu, il en profite pour faire de fréquentes randonnées en pousse-pousse. Durant l'année 1900, Ototo Gizu devient une maison d'édition et entame la publication d'une collection de recueils de haïku. Plusieurs volumes voient le jour, consacrés aux maîtres Busson, Basho et Teiji. Shiki fonde aussi à cette époque le Cercle de la Montagne, dont les 9 membres, parmi lesquels Kyoshi, Ekigoto et Soseki, se rencontrent périodiquement chez lui pour lire aux autres les nouvelles qu'ils viennent de composer. Le groupe fait publier en 1900 une première anthologie des récits en prose de Shiki et de ses disciples. « Collection de pierres précieuses » en est le titre. Shiki compose une nouvelle intitulée « À la lumière de la lampe » où il relate comment, allongé seul dans la nuit, son ombre projetée par la lampe à huile lui évoque différents visages, un lutin, un enfant occidental, une jeune fille, un masque de fête, un masque de singe, Jésus, un tuberculeux et pour terminer, un défunt. Le 13 août, Shiki a une violente hémorragie des poumons, comparable à celle qu'il avait eue en rentrant de Mandchourie. Après cette crise, sa capacité de travail diminue, les réunions poétiques n'ont plus lieu chez lui. Au mois d'octobre, dans sa chronique Nouvelle personnelle, publiée par Ototo Gizu, il écrit ses haïkus. Les fruits des mycocouliers tombent, les enfants des voisins ne viennent plus me voir. Les fruits des mycocouliers tombent, les enfants des voisins ne viennent plus me voir. Cette année, malade avec les pivoines, convalescent avec les chrysanthèmes. Cette année, malade avec les pivoines, convalescent avec les chrysanthèmes. Convalescent. Appuyé sur une canne, 1000 montagnes, 10 000 pics, en automne. Convalescent, appuyé sur une canne, 1000 montagnes, 10 000 pics en automne. Durant le premier semestre de 1901, Shiki, maintenant âgé de 33 ans, publie en chronique dans Nippon un journal intitulé « Une goutte d'encre ». Il en est au dernier stade de la tuberculose spinale. Seule la morphine lui procure quelque apaisement au milieu d'insupportables douleurs. Au début de leur développement, les désirs humains tendent à être grandioses et vagues, puis deviennent peu à peu petits et précis. Il y a 4 ou 5 ans, au commencement de mon invalidité, mes désirs étaient déjà réduits. J'avais l'habitude de dire que ça ne me dérangeait pas de ne pouvoir me promener loin s'il m'était loisible de flâner dans mon jardin. Quelques années plus tard, quand il me fut devenu impossible de marcher, il me sembla que le seul fait de me mettre debout serait une grande joie. Confiant cela à autrui, j'ajoutais « Quel minime désir !» L'avant-dernier été, j'atteignis le point où je ne grommelais plus que « Je ne demande même pas à me mettre debout, j'implore le Dieu de la maladie qu'il me permette seulement de m'asseoir. » Mon désir n'avait pas encore fini de rapetisser. Hier et aujourd'hui, ma prière a été « Qui se soucie de s'asseoir ? Quelle joie d'être simplement libéré de la douleur et de pouvoir rester confortablement allongé ne serait-ce qu'une heure. » C'est là, à l'évidence, une requête minimum. Mon désir est désormais si réduit qu'il ne peut plus guère diminuer. Le prochain et ultime stade sera le non-désir. N'est-ce pas cela que le Bouddha a appelé Nirvana et Jésus le salut ? Le 2 juillet, Shiki met un terme à sa chronique « Une goutte d'encre ». Il publie plusieurs essais dans Ototo Gizu. Au cours de l'été, son état empire. Sa mère Yae et sa sœur Ritsu doivent rester à son chevet en permanence. Ses proches disciples viennent aussi lui tenir compagnie et essayer de le divertir de la douleur. Dans les courts moments de soulagement que lui procure la morphine, il parvient à écrire ou à dicter des réflexions et des poèmes. Durant l'automne 1901, il entreprend la rédaction d'un journal privé, non destiné à être publié, intitulé « Notes éparses allongées sur le dos ». Au mois de novembre, sa condition empire encore. Le médecin lui prescrit toujours plus de morphine pour soulager la douleur. Le 11 décembre, ses amis et disciples font venir chez lui un joueur de musique Joruri, une sorte de récitation musicale accompagnée par un samisen, le luth japonais. Shiki est très friand de ce genre. En avril 1902 est publié le premier volume du recueil de haïku du repère de la loutre, regroupant ses haïkus composés entre 1892 et 1896. En avril et mai, il publie dans Ototo Gizu une chronique intitulée « Paroles douloureuses sur mon lit de malade » dans laquelle il dicte ce qui lui vient à l'esprit dans les moments de relatif soulagement physique procurés par la morphine. Le 5 mai, il entame aussi l'écriture d'un troisième journal destiné à être publié, celui-là, intitulé « Un lit de malade de 6 pieds » qu'il envoie chaque jour à Nippon. Dans la première chronique, il écrit « Un lit de malade de 6 pieds » Voilà tout mon univers, et il est encore trop grand pour moi. J'arrive à étendre la main et à toucher le tatami, mais ne puis étirer mes jambes pour m'allonger à l'aise. Au pire moment, je ne peux bouger sans ressentir une douleur extrême. Au milieu de la souffrance, de l'angoisse et des lamentations, les calmants me donnent l'illusion de pouvoir convoiter un peu de confort et rechercher un chemin qui s'écarte de l'avenue de la mort. Tant que je serai en vie, j'aurai encore certaines choses à dire. Le 19 juin. Voilà le malade. Mon corps me fait tellement souffrir et a si peu de force que je peux à peine bouger. Le moindre incident me plonge dans le désespoir. Mes yeux sont incapables de fixer. Je ne peux plus lire ni livres ni journaux. Pire encore, il m'est devenu impossible de tenir un pinceau pour écrire. Serais-je sans compagnon à mes côtés, sans visiteur avec qui parler, Mais comment donc passerai-je la journée? Comment donc passerai-je la journée? Dans les moments de plus en plus brefs, où la douleur ne le taraude pas, Chiki aime à peindre à l'aquarelle des plantes, des fleurs, des fruits et des légumes. Le 6 août 1902, dans le lit de malade de six pieds, il consigne « Ces jours-ci, mon plus grand plaisir est de peindre d'après nature après avoir pris de la morphine. Ce matin, il pleut et ma tête est si lourde que je ne puis la supporter. Je prends de la morphine et peins un chrysanthème des eaux. Le premier essai est un navrant échec, mais le suivant est assez réussi. J'en suis ravi. » Le lendemain, 7 août, Chiki note « J'ai fait mettre un rameau fleuri de l'espédèse à mon chevet. Tandis que je le peins fidèlement, je sens que peu à peu, j'en viens à comprendre le secret de la création. » Nippon a fait imprimer 300 enveloppes à l'adresse du journal pour les envois quotidiens de sa chronique du lit de malade de six pieds. Le 20 août, Chiki écrit « Le lit de malade de six pieds en est à 100 chroniques. Au rythme d'une chronique par jour, cela fait 100 jours. 100 jours représentent sans doute une courte période, mais pour moi c'est comme si 10 années s'étaient écoulées. Personne ne peut comprendre mon bonheur d'avoir survécu pendant une si longue période de 100 jours. Il reste encore 200 enveloppes. 200 jours, c'est plus de la moitié d'une année. Dans 200 jours, les pruniers seront en fleurs. Fleuriront-ils devant les yeux du malade ?» Chiki adresse à son oncle maternel, qui l'a fait venir à Tokyo 18 ans auparavant, la lettre suivante. « À ma mort, inutile de publier un avis de funérailles. La maison est exiguë, l'allée est étroite. Si 20 ou 30 personnes accourent, on ne pourra plus déplacer le cercueil. Quelle que soit la secte religieuse qui accomplira le rite funèbre, devant le cercueil, pas de discours élégiaque ou nécrologique. Je ne souhaite pas de nom posthume bouddhiste, ni de pierre tombale. Qu'on ne prenne pas la peine de veiller le cercueil toute la nuit. Sinon, qu'on le fasse à tour de rôle. Devant le cercueil, pas de larmes de crocodile. Qu'on discute et qu'on rit comme à l'accoutumée. » Le 14 septembre, dans sa chronique quotidienne du lit de malade de six pieds, Chiki écrit « J'ai des jambes, pourtant j'ai l'impression qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre. J'ai des jambes, deux énormes pierres impossibles à déplacer. Mais si quelqu'un les touche à peine, le ciel et la terre tremblent, toutes les plantes et tous les arbres hurlent. » Le 18 septembre, à 10h du matin, prévenu que Chiki est au plus mal, son disciple Ekigoto, qui, depuis le début de l'année, habite dans une maison voisine, arrive. Il trouve Ritsu, la sœur de Chiki, et sa femme de Kuga Katsunan, l'éditeur de Nippon, à son chevet. La gorge de Chiki est encombrée de phlegmes qu'il n'a plus la force d'expulser. La sève de Lufa, très expectorante, n'a plus aucune action sur le mal. Ekigoto lui demande comment il va. Chiki ne répond pas, mais fait un geste avec sa main gauche, plusieurs fois, signifiant qu'il veut écrire. Ritsu prépare de l'encre, puis va chercher l'écritoire de son frère. Tandis qu'elle tient l'écritoire, Ekigoto place un pinceau dans la main de Chiki, qui lentement inscrit trois poèmes. Le loufa en fleurs. Étouffé par le phlegme, un bouddha. Le loufa en fleurs. Étouffé par le phlegme, un bouddha. Vers 1h du matin, le 19 septembre 1902, à l'âge de 34 ans, se termine le séjour de Chiki dans ce monde flottant. On dit de Chiki qu'il est le père du haïku moderne et qu'avec lui commence la prose japonaise moderne, mais au-delà, comme il l'a demandé, un mangeur de kaki qui aimait les haïkus, ainsi faudra-t-il se souvenir de moi. Chiki a souvent écrit qu'un grand maître de haïku n'écrivait dans toute sa vie de poète guère plus de 200 à 300 haïkus authentiques, de ceux qui sont porteurs d'une intuition profonde de la réalité immédiate et évidente, de ceux qui donnent à sentir, à sonder l'indicible profondeur, à goûter la subtile saveur de l'expérience humaine, saisie dans l'éternité de l'instant présent, de ceux qui traduisent, sans l'expliciter mais seulement en la suggérant, l'expérience de recul philosophique, poétique si l'on préfère, sur le monde, quand tout devient simple, lumineux, merveilleusement évident, quand on perçoit bien plus que le sens, l'harmonie des choses, leur impeccable coïncidence. Voilà, fin de cette émission consacrée à Shiki, le mangeur de kaki qui aime les haïkus, selon le titre du livre qui lui est consacré aux éditions Mundaren. La semaine prochaine, je vous retrouve pour vous lire une centaine de haïkus de Shiki, parmi les meilleurs, parmi ceux qui répondent aux critères du haïku selon leur auteur. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée à l'écoute des programmes de votre radio préférée, bien sûr.